Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. Dans l'actualité de l'Église de cette édition, nous parlerons des activités du Saint-Père au cours de la journée de lundi, avant de vous donner des nouvelles de l'Église Famille de Dieu, qui est en Zambie, en République démocratique du Congo, au Burkina Faso et au Cameroun. L'actualité sociopolitique africaine, deuxième grande articulation de cette édition, nous conduira au Soudan du Sud, au Nigeria, en Afrique du Sud, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette édition.
Radio Vatican, Français Afrique, Françoise Niémier.
Le pape a reçu tour à tour lundi en audience privée Mgr Arthur Roche, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, avec le secrétaire du même dicastère, Mgr Vittorio Francesco Viola, archevêque de Tortona, et avec le sous-secrétaire Mgr Aurelio Garcias Macias, évêque de Rodone. Le pape a par la suite reçu Mgr Victor Allo, nonce apostolique au Maroc, Mgr Gianni Roncari, évêque de Pitigliano, Sovanna, Orbetello et Grosseto en Italie, le cardinal Marcello Semerano, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, avant de recevoir le professeur Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio, et enfin Mgr Joël Mercier, archevêque de Rota, secrétaire de la Congrégation pour le clergé. Promouvoir dès maintenant une politique agricole écologique durable qui respecte les droits et les intérêts des petits agriculteurs, telle est la priorité indiquée par Caritas Zambie au nouveau président Akainde Ichimela, vainqueur des élections du 12 août dernier. Une agriculture éco-durable dépassant le modèle de l'agriculture industrielle, intensive, basée sur l'utilisation de produits chimiques, permettra de faire face aux changements climatiques et aux petits agriculteurs, indique une note de l'organisation catholique qui fait remarquer qu'une agriculture respectueuse de l'environnement est également plus économique et créatrice d'emplois. Caritas Zambie souligne également la nécessité d'une politique et d'une législation visant à protéger les semences et les systèmes alimentaires indigènes afin de limiter le pouvoir des multinationales qui dictent les règles du marché sur leur commercialisation. Ces semences sont un don de Dieu et appartiennent à nos agriculteurs qui les ont transmises de génération en génération, souligne la note. Caritas Zambie a notamment demandé au nouveau président de mettre en œuvre la déclaration de Maputo sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ce document, signé en 2003, engage les chefs d'État de l'Union africaine à investir au moins 10% des crédits totaux de leur budget national dans le secteur agricole. C'est également la raison pour laquelle l'organisation caritative demande de moins investir dans l'exploitation minière qui est le secteur moteur de l'économie zambienne au profit de l'agriculture. En République démocratique du Congo, la profanation des lieux de culte continue. La dernière en date est celle de l'église paroissiale Saint-Paul de Kamende. Cette profanation a suscité l'indignation de l'ordinaire du lieu qui a produit une déclaration. Notre correspondant local nous en dit plus dans ce compte rendu.
L'évêque de Kabinda, Mgr Félicien Tamboué, a publié le jeudi 26 août une déclaration d'indignation contre la profanation de l'église paroissiale Saint-Paul de Kamende dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 août. Selon l'évêque, des personnes non identifiées et mal intentionnées ont cassé le cadenas de l'église paroissiale, s'y sont introduites et ont dérobé la grande croix du Saint-Tabernacle, la croix d'autel, la statue de la Vierge Marie, la statue de Jésus, une Bible et la pierre d'autel. Ces personnes ont aussi volé l'autre statue de la Vierge Marie qui se trouvait à la grotte. L'évêque de Kabinda proteste, condamne avec la dernière énergie et une sainte colère ces actes de vandalisme et de sabotage qui portent atteinte aux lieux et aux objets sacrés, causant ainsi un grand préjudice aux fidèles. L'évêque annonce qu'une plainte en bonne et due forme a déjà été déposée auprès de l'autorité compétente. Monseigneur Félicien Tamboué exprime sa compassion et sa proximité avec le peuple de Dieu. L'évêque se rendra prochainement à Kamende pour la réouverture de l'église profanée. En attendant, les fidèles se réunissent ailleurs et les autres paroisses du diocèse de Cabinda sont invitées à se joindre dans une chaîne de prières. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Burkina Faso, il y a eu des vœux de religion chez les sœurs de la congrégation Notre-Dame du Perpétuel Secours dans l'archidiocèse de Koupéla. Reportage.
La famille religieuse des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours s'est agrandie ce samedi 28 août 2021 par la profession temporaire de deux novices et définitive de trois sœurs. La messe d'engagement a été présidée en l'église paroissiale de Saba par Mgr Gabriel Sayaogo, archevêque métropolitain de Koupéla.
Mes chères sœurs, Marie et Diane, Stéphanie, Paul, Cédérine, Raissa, Blandine et Delphine, ce n'est pas à cause de vos diplômes que Dieu vous appelle aujourd'hui à lui consacrer vos personnes à la suite de son Fils. Il vous a choisi en fonction de son plan d'amour pour l'humanité. Avec ses vœux, que ce soit de manière temporaire ou définitive, vous êtes associés. Selon le charisme des saints de Notre-Dame du Perpétuel Secours à la mission de Jésus.
Et cette mission, rappelle Mgr Gabriel, est ceci.
Jésus vous demande, non pas d'aimer lui, mais d'aimer les autres pour pouvoir que vous l'aimez.
Et qui sont les autres en fait? Précision de Mgr Sayaogo.
Les autres, ce ne sont pas d'abord les gens de l'extérieur, les multiples visages que vous rencontrerez au jour le jour, mais vos consoeurs.
Les vœux de ces cinq prophètes ont été reçus par la supérieure régionale Sœur Marguerite Parkouda au nom de la supérieure générale Mère Madeleine Fillon-Paul d'A Ouagadougou pour Radio Vatican.
Parlons à présent avec notre correspondante locale au Cameroun de l'Assemblée générale de l'Association des prêtres du diocèse de la province ecclésiastique de Bamenda, tenue du 24 au 28 août au petit séminaire Bishop Rogan dans le diocèse de Bouéa, région du sud-ouest Cameroun.
La province ecclésiastique de Bamenda compte environ 480 prêtres diocésains. 242 ont répondu présents à cette rencontre provinciale qui se tient tous les deux ans. Pendant trois jours, ils se sont mutuellement édifiés sur l'urgence de la solidarité entre prêtres, la charité fraternelle et la fidélité aux engagements sacerdotaux. En effet, le contexte s'y prête, la crise sociopolitique qui depuis près de cinq années déjà plonge les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest dans l'indigence, la violence, l'insécurité et le deuil. Le rapport lu en assemblée par l'abbé Eugène Cardézé indique que les prêtres de la province ecclésiastique de Bamenda continuent courageusement leur travail pastoral malgré les soupçons de connivence que les partis en conflit font peser sur eux. Les prêtres de la province ecclésiastique de Bamenda ont été invités à continuer de promouvoir la paix, la fraternité et la cessation des affrontements malgré ces préjugés défavorables. Ils se sont par ailleurs encouragés mutuellement à ne favoriser en aucune manière le phénomène des abus sexuels sur les mineurs et les adultes vulnérables dans leurs diocèses et paroisses respectifs. Cette réunion provinciale leur a aussi permis de se connaître et de bénir le Seigneur pour le nombre sans cesse croissant des prêtres diocésains de la province ecclésiastique de Bamenda.
Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les forces de sécurité patrouillaient lundi dans Djouba, la capitale du Soudan du Sud, où de nombreux magasins étaient fermés avant une manifestation déclarée inégale par les autorités. Une coalition de groupes de la société civile a appelé à manifester contre le gouvernement en proie à la violence, à la famine et à une profonde crise économique depuis son indépendance en 2011. Les autorités ont mis en garde ceux qui seraient tentés de participer à cette manifestation interdite. La République du Congo, Congo-Brazzaville, a reçu plus de 300 000 doses de vaccins anti-Covid, un don des États-Unis, sa première livraison dans le cadre du mécanisme COVAX. C'est ce qu'a indiqué lundi le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en Afrique. La première livraison de vaccins contre la COVID-19 par le COVAX au Congo a eu lieu ce week-end à Brazzaville. Le dispositif COVAX vise à fournir cette année des vaccins anti-COVID à 20% de la population de près de 200 pays à travers le monde. Le 15 août dernier, le président congolais Denis Sassou Nguesso avait appelé ses concitoyens à adhérer massivement à la vaccination pour atteindre l'immunité collective, seule voie de salut dans la lutte contre la pandémie. Mi-août, seuls 1,8 à 2% de la population éligible à la vaccination avaient reçu leur dose à cause des résistances et de la méfiance que suscitent les vaccins, selon le ministère congolais de la Santé. Le nouveau président zambien, Hakainde Hichilema, a nommé dimanche de nouveaux chefs militaires et remplacé tous les commissaires de police. « Je relève tous les commissaires de police avec effet immédiat », a-t-il déclaré sans donner davantage de précision. Le chef de l'État zambien a également exhorté la police à procéder à des enquêtes approfondies avant d'arrêter des suspects, soulignant que des personnes ne devraient être arrêtées avant la fin des investigations. Des défenseurs des droits humains ont accusé le prédécesseur d'Hichilema, Edgar Lungu, d'avoir mené une répression brutale contre les dissidents sous son mandat et dénoncer des violences policières qui ont fait au moins 5 morts depuis son élection en 2016. Le président nigérien Muhammadu Buhari a lancé dimanche un appel à l'unité pour tenter de mettre fin aux tensions près de la ville de Jos, dans le centre du Nigeria, une région touchée par des violences meurtrières. Jos, dans l'état du Plateau, situé sur une ligne qui distingue le nord du Nigeria, majoritairement musulman, du sud principalement chrétien, est en proie depuis des années à des violences ethniques et religieuses. Des responsables locaux ont cependant estimé que les attaques récentes étaient plus l'œuvre de criminels que de nature religieuse. Nos communautés doivent s'unir contre ces horribles attaques. La violence punitive n'est pas la réponse, écrit le bureau du président Buhari dans un communiqué publié dimanche.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niamier.
Au moins 10 000 enfants en Afrique du Sud ont abandonné l'école depuis le début de la pandémie de coronavirus qui a fortement impacté le domaine scolaire, a indiqué dimanche le ministère de l'éducation. Les interruptions de cours ont impacté la fréquentation des établissements scolaires avec 10 000 enfants de moins âgés de 7 à 14 ans inscrits à l'école en 2021. L'Afrique du Sud est le pays du continent le plus touché par la COVID-19 qui compte déjà plus de 2,7 millions de cas et plus de 81 000 morts.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre programme se poursuit avec le magazine sur la santé. Marie-Josée Mondo Boisboileau.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé nous conduit au Botswana pour parler des enseignements tirés du déploiement des vaccins contre la COVID-19 dans ce pays. Avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, le Botswana est l'un des 4 pays du continent africain qui ont réalisé une revue intra-action de leur déploiement rapide des vaccins contre la COVID-19 pour faciliter l'élaboration de la phase suivante. Le but de cette revue était d'identifier les défis et les meilleures pratiques pour continuer à adapter le déploiement, explique la docteure Malebogo Kebabogne, directrice des services de santé au ministère botswanais de la Santé et du Bien-être. Le plan national de déploiement des vaccins du Botswana était déjà en place 1 mois avant l'arrivée des premiers vaccins, fin mars. En outre, le pays a mené des enquêtes pour évaluer les perceptions du public concernant la vaccination et a organisé une campagne nationale d'information intitulée prêt à être vacciné pour sensibiliser le public. Ce plan national de déploiement a été validé au niveau du cabinet du ministère. Les enquêtes ont indiqué que 76% du public était favorable à la vaccination. La campagne a également cherché à prévenir les éventuelles réticences. Dans la première phase, visant à toucher 264 000 personnes, il s'est agi de protéger le système de santé. La deuxième phase vise à garantir la poursuite des activités économiques. La troisième et dernière phase ciblera les jeunes de 18 à 29 ans. Au début du mois de juillet, le Botswana avait reçu 473 000 doses de vaccins AstraZeneca, Covishield, Pfizer et Sinovac et avait alors administré leur première dose à 150 000 personnes, soit environ un dixième de la population adulte du pays. Parmi ces personnes figuraient 70% des soignants et 60% des personnes âgées de plus de 55 ans. Avant le début du déploiement, il a été crucial pour le Botswana de prévoir une série de défis, notamment l'incertitude quant à l'approvisionnement en vaccins. Nous invitons instamment les pays africains à prévoir de multiples défis comme l'a fait le Botswana, déclare Chanda Chikwanda, coordinatrice du programme d'apprentissage au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, qui contribue au partage des enseignements entre pays africains en vue du renforcement du déploiement des vaccins contre la COVID-19. Un bon financement, notamment la mobilisation de ressources ainsi que le suivi et l'évaluation constant s'appuyant sur une collecte efficace de données ont tous contribué au renforcement du déploiement rapide des vaccins contre la COVID-19 au Botswana. Les pays qui ont mis l'accent sur la mobilisation des ressources se sont révélés être les plus à même de connaître les bons résultats. Eswatini a mobilisé suffisamment de fonds pour vacciner l'ensemble de sa population, tandis que le Rwanda, l'Angola et le Ghana ont rapidement investi dans le renforcement des capacités de la chaîne du froid. Selon la docteure Kebabonye, les difficultés d'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 en Afrique ont également contribué à accroître la méfiance du public à l'égard du déploiement des vaccins au Botswana. Une certaine hésitation à se faire vacciner a également été constatée chez certains jeunes soignants, ce qui a été aggravé par la diffusion de fausses informations en ligne et hors ligne. À l'instar de nombreux pays, le Botswana est confronté à des difficultés liées à la mobilisation d'un nombre suffisant de vaccinateurs, de personnel infirmier, de professionnels de la santé et de personnel de soutien pour une campagne d'une telle envergure. Par ailleurs, le manque d'équipement et la faible connectivité Internet dans certaines zones ont compromis l'utilisation des systèmes de données électroniques qui permettent de suivre l'administration des vaccins et leurs éventuels effets indésirables. Interrogé sur les conseils à prodiguer aux autres pays africains, Dr Kebabonye évoque une approche progressiste et flexible mettant l'accent sur la mise en œuvre des phases pilotes et l'apprentissage continu.
Invité du jour.
Dans le cadre de notre rubrique consacrée à l'invité du jour, nous vous proposons de nouveau la première partie de l'entretien que le père Jean-Baptiste Kikwai, jésuite congolais, astronome et membre de l'Observatoire du Vatican, a accordé à Radio Vatican. Dans cette première partie, le père Kikwai nous parle du tourisme spatial, tout en mettant l'accent sur la conversion écologique à laquelle nous invite le pape François. Suivez.
Le tourisme spatial est bien lancé par deux personnes. La première personne, c'est Richard Branson, dans le programme spatial Galactic Virgin. Et la deuxième personne, c'est Jeff Bezos, le PDG du Rotan de l'Amazon et dans le programme spatial Blue Origin. Ce sont ces deux-là vraiment qui ont initié le tourisme spatial. Il est intéressant de voir ce que ces deux personnes-là ont dit au bout de leur expérience spatiale. Richard Branson, lui, a tout simplement dit « la Terre est magnifique » et il s'est arrêté là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'entendre Jeff Bezos. Lui, il a dit « la Terre est trop magnifique pour la décrire » et regardez la planète, il n'y a pas de frontières. C'est une planète et nous la partageons. Et cette planète est fragile. Il a tout simplement montré l'envie de lutter contre le changement climatique. Donc on voit que quelque part, en fait, des liens qui se fait déjà entre ce tourisme spatial et quelque part l'écologie. Alors le pape, lui, évidemment, dans son encyclique, revient très fortement sur l'écologie. Et ce qui est important, c'est la conversion à laquelle il nous appelle. Et lui appelle cette conversion-là conversion écologique.
Dans conversion écologique, il y a deux mots, conversion et écologie. Comment le comprenez-vous?
Conversion viendrait du domaine de la religion, du domaine de la spiritualité, quelque chose de personnel. Tandis que l'écologie, c'est vraiment une science qui étudie l'écosystème, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la nature, les animaux, les végétaux, les minéraux, et on étudie cela comme étant un système, et il faut maintenant maintenir, protéger ce système-là. Tout simplement parce que on se réalise que si un élément de ce système-là venait à être détruit, et alors c'est tout le système et tout entier, en fait, qui sera en déséquilibre.
Dans ce sens, c'est quoi la conversion écologique à laquelle nous appelle le pape François?
Il est maintenant intéressant de revenir sur la conversion écologique à laquelle nous appelle le pape pour souligner tout simplement que nous devons aimer toujours l'unité et l'intégration. Et cette unité, en fait, doit évidemment partir de l'individu. Et c'est à ce moment-là alors qu'on pourra parler de l'unité spirituelle, c'est-à-dire l'individu doit aimer justement se présenter à tout moment et en toutes circonstances comme étant un système unifié, intégré. Cette unité, en fait, va aussi par rapport à la communauté, c'est-à-dire on doit toujours être membre d'une communauté unifiée. Ça peut aller par rapport à la nation. On doit être toujours membre d'une nation unifiée. Et ça peut aller, évidemment, jusqu'à la création elle-même. Et donc, la conversion écologique, hein, ces deux mots venant de deux domaines vraiment totalement différents, c'est très puissant dans ce sens que, voilà, maintenant on est appelé à aimer.
Et quelles sont les conséquences du tourisme spatial sur notre planète?
En réalité, le tourisme spatial n'aura pas de conséquences, je veux dire des conséquences néfastes comme telles, non. Sinon, tout simplement, évidemment, des gens qui vont vouloir perdre beaucoup d'argent, des milliers d'argent, évidemment, pour pouvoir effectuer ce voyage-là qui ne dure que 15 minutes. Hein. Et on peut peut-être se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas justement utiliser cet argent-là pour d'autres programmes, par exemple contre la faim, ou d'autres programmes contre la pandémie, ou d'autres programmes contre le paludisme, ainsi de suite. Mais des conséquences néfastes, par exemple, sur la planète, non, il n'y en a pas.
Alors que nous les hommes continuons à sonder l'univers, ne pensez-vous pas qu'il y a un risque que nous finissions par découvrir que Dieu n'existe pas?
C'est une très bonne question. Je ne crois pas. Donc, comme on dit, hein, il n'y a que des idiots qui peuvent en fait accepter des affirmations pareilles. Il y a une chose, évidemment, qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que nous étudions de réalité. On étudie les astéroïdes, on étudie les comètes, on étudie les étoiles, et de suite. Ces objets, donc les objets de nos recherches, nous les trouvons là. Ces objets sont là, déjà. Ce n'est pas nous qui les avons mis là devant nous. Nous n'avons pas créé les astéroïdes, nous n'avons pas créé les comètes, nous n'avons pas créé les étoiles. Nous les étudions parce que ces réalités-là sont là devant nous. Alors, celui-là qui prend le temps d'étudier ces réalités-là d'une manière vraiment poussée va arriver à se rendre compte que ces réalités-là sont vraiment complexes. Et la complexité juste de nos objets de recherche va, à mon avis, avoir comme conséquence susciter un émerveillement chez nous. Alors, cet émerveillement nous rappelle peut-être que celui-là qui a mis l'objet devant nous, cet objet que nous n'avons pas créé, est peut-être beaucoup plus complexe que l'objet lui-même. Et donc, jamais, je crois, si on est vraiment sérieux, on croirait que parce qu'on connaît Dieu, on doit le mettre à l'écart. Bien au contraire.
C'était à l'instant le père Jean-Baptiste Kikwaya, jésuite congolais et membre de l'Observatoire du Vatican. Il répondait aux questions de Camille Mukoso.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Vous retrouverez le service Français-Afrique de Radio Vatican demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.
Mama Maria, merci.